Donc il est dit, toujours à propos de ça, hein, il convient en premier lieu d'y croire et de le comprendre. Il est dit, c'est Ziggy qui dit ça, il dit, la foi permet de comprendre immédiatement le principe que l'on entend. Donc encore une fois, c'est la foi qui va posséder la compréhension. Aussi, à propos de la durée de sa vie et de ce qu'il a enseigné, Shakyamuni, qu'est-ce qui s'est passé? Il sort de sa méditation, au premier chapitre, et dans le chapitre Ben, il dit, n'insistez pas, il dit aux gens, à ses disciples, qui l'ont suivi pendant 40 ans, il leur dit, ce que l'éveillé a mené à l'accomplissement, c'est la loi primordiale et rare, difficile à comprendre. Seul un éveillé peut la comprendre avec un autre éveillé. N'insistez pas, arrêtez de me poser la question, savoir ce que c'est. Et il dit, même si le monde était rempli de gens tous semblables à Shariyotsu, qui est le plus fort en sagesse, et que ces gens s'épuisent la pensée à essayer de mesurer ma sagesse, ils ne pourraient y parvenir. Quand bien même les 10 orients seraient remplis de gens tels Shariyotsu, et si tous les autres disciples remplissaient aussi les terres des 10 orients, qui s'épuiseraient la pensée à mesurer ma sagesse, ils ne pourraient y parvenir. Ce n'est pas abordable. Donc les gens dans l'assistance, qui ont déjà 40 ans de pratique de ce que dit Shakyamuni, tout le monde se fait cette réflexion, on dit, mais pourquoi il insiste comme ça, le vénéré Shakya, en disant qu'on ne pourra pas comprendre ce qu'il dit. En nous disant que la loi possédée par l'éveillé est si profonde et difficile à comprendre que le sens en est difficile à connaître et que l'ensemble des auditeurs ne pourrait jamais y parvenir. Quand il nous a enseigné la délivrance unique, c'est un enseignement qu'on a pu prendre et faire nôtre, et ainsi gagner l'extinction des troubles. Mais à présent qu'il nous dit ça, on doute, on ne sait plus du tout où mène ce type d'affirmation de la part du Bouddha. Donc, les gens méritants qui avaient sorti de leur esprit toutes les infections de la pensée, ainsi que ceux qui cherchent l'extinction, ainsi que ceux qui recherchaient l'éveil par la causalité, tous se regardent entre eux avec hésitation au fond du cœur. Ils ne comprennent pas où veut les mener le Bouddha. Shariyotsu insiste 3 fois, c'est ce qu'on lit dans le Kyobon le matin. Shakyamuni lui dit, arrête, ne parle pas davantage. Ma loi est sublime, difficile à comprendre. Et en l'entendant, les outrecuidants ne lui accorderont à coup sûr ni foi ni respect. Outrecuidant, c'est confiance excessive en soi-même, estime exagérée de soi. Et Shariyotsu encore insiste en disant, si, on va écouter, on prendra la loi, on va l'écouter, l'apprendre et la pratiquer. Donc, Shakyamuni dit, bon, voilà maintenant pourquoi tu me demandes avec insistance, comment pourrais-je ne pas prêcher? Donc, écoute à présent avec lucidité et réfléchis-y bien, je vais pour toi expliquer ce que je vois. À peine Shakyamuni dit ça, il y eut dans l'assemblée des moines et des nonnes et des laïcs, hommes et femmes, parmi eux, il y a 5000 personnes qui se sont levées de leur place, qui saluent l'éveillé et se retirent. Pourquoi cela? Il s'agissait d'une troupe d'êtres aux racines de crimes profonds et graves, d'outrecuidants qui prétendaient avoir acquis ce qu'ils n'avaient pas acquis et attesté ce qu'ils n'avaient pas attesté. C'est parce qu'ils avaient de tels défauts qu'ils ne demeurèrent point. À ce moment, le vénéré du monde resta silencieux et ne les retint pas. Alors, l'éveillé dit à Shariyotsu, il n'y a plus désormais dans la multitude qui m'entoure de branches ni de feuilles, mais uniquement un pur joyau. Le pur joyau, c'est le fait d'avoir la foi mise avant la compréhension. Après, donc, il enseigne cette foi suprême. Ce qui fait que lorsque Shakyamuni enseigne le chapitre durée de la vie, il sait qu'il va détruire tout ce que les gens pensaient comme étant vrai. Il allait briser en deux leur sagesse, leur petite sagesse. Donc, il a pris des précautions. Donc, lorsqu'il y a le rassemblement du Sutra du Lotus, le vénéré Shakya prit soin de faire des préparatifs à grande échelle. Parmi ceux-ci, le premier grand préparatif fut l'apparition de la tour au trésor et du Bouddha Tao à l'intérieur. Cette tour apparaît dans les airs, Tao dit, parfait, parfait, tout ce que Shakyamuni a dit est juste, et comme il enseigne la loi du lotus, et que chaque fois qu'il y a la loi du lotus enseignée dans l'univers, je viens avec mon stupa, hop, c'est pour ça, je viens et je suis là. Premier point, j'ai des gens, ils l'avaient jamais vu, sans plus surpris. Le deuxième point, juste avant le chapitre durée de la vie, donc le 15e chapitre, c'est l'apparition des grands bodhisattvas jaillis de la terre. Gens qui apparaissent, qui sortent des entrailles de la terre, et qui montrent un aspect et une connaissance de la doctrine beaucoup plus grand que les disciples de Shakyamuni depuis 40 ans. Donc en faisant apparaître ces êtres plus grands que ses disciples, et en faisant apparaître à la tour au trésor auparavant, à ce moment-là, le fait qu'il annonce qu'en réalité il n'a pas atteint l'éveil en Inde, mais qu'il l'a atteint dans un temps infiniment lointain, est crédible parce que les gens qui sortent des entrailles de la terre, avec leurs disciples par milliers, par milliards, montrent, attestent bien que Shakyamuni a une vie beaucoup plus longue que ce que les gens pouvaient croire à l'époque. Pourtant, par ce phénomène, il fait naître le doute dans l'esprit de l'assemblée. Ce faisant, il anéantit les connaissances et la sagesse de tous les êtres, et put alors révéler le corps du Bouddha, présent en permanence depuis le passé long et étendu, ainsi que son territoire au sein du monde des phénomènes, qui sont des notions qui dépassent de loin la sagesse et les connaissances de l'assemblée. Donc encore une fois, ne sont restés que ceux qui ont pu croire, ne pas remettre en cause. Donc encore une fois, foi et compréhension en priorité. Aussi, Nichiren dit, on considère notre monde, le monde dans lequel on est, on l'appelle le monde de l'endurance, c'est-à-dire le monde Shabba, ou Saha selon les traductions. Dans notre enseignement, le monde de l'endurance, seul le Bouddha peut le supporter, seul le Bouddha endure le monde. Nous, les êtres, on n'y arrive pas parce qu'on est des êtres humains ordinaires. Et en fait, le grand patriarche dit que obtenir l'endurance, c'est s'éveiller au fait que aucune chose n'est produite. Toutes les choses sont permanentes. Toutes les choses ne peuvent ni apparaître, ni disparaître. C'est comme ça, c'est en s'éveillant au fait que rien ne peut ni naître, ni disparaître, ou que rien n'est produit par quelque chose, c'est en s'éveillant à ça que l'on peut endurer comme le Bouddha endure notre propre existence. Donc, il est dit à propos de cela, par Nichiren dit, le monde actuel de l'endurance, le monde des êtres, s'est départi des trois calamités et a quitté le cycle des quatre périodes cosmiques. C'est la Terre pure, présente en permanence. Ce monde chaotique, qui n'est qu'une somme d'effets tout le temps qui apparaissent, où on ne peut rien devenir, on ne sait pas ce qui nous arrive le jour suivant, où tout est comme ça, chaotique un peu, quelque part. De par l'enseignement du Bouddha originel, ce monde devient la terre pure et paisible. La raison en est que, dans le Hanzon, il y a les 10 états. Et les 9 premiers sont l'expression de cette rive du monde où l'on est. Alors que, ils sont donc liés au mur Langetyo qui est central, et le mur Langetyo central, sur le Hanzon, c'est le monde du Bouddha. C'est-à-dire donc l'autre rive, la rive de l'éveil. Dès lors, au moment où le Hanzon est inscrit, il y a effectivement la possibilité pour les êtres de s'éveiller au fait que leur vie est présente en permanence et que cette terre qui est jugée celle où les choses se produisent d'une manière chaotique est en fait éternelle, permanente, et il est dit, voilà, présente en permanence, c'est la terre pure. Donc ce n'est que par notre rapport à l'objet, notre pratique matin et soir, qu'on s'éveille au fait que notre propre vie est permanente et pure, sans commencement ni fin. Parce que les 9 mondes sont réunis au monde du Bouddha, dans le Hanzon. C'est à ce moment-là que la terre, autrement dit, cette vie de vicissitude que l'on mène, à l'ordinaire, hors la pratique de la loi, nous ouvre au fait que, en réalité, cette terre est pure et permanente, ainsi que notre existence. C'est par là que les choses se font. Donc Michelin dit, l'éveillé par le passé ne s'est jamais éteint, et dans le futur, il n'apparaîtra point. Ceux à qui il a prêché sont de même substance. Ceux à qui il prêche, bien sûr, c'est nous. Donc quand il est dit, c'est le commentaire du grand patriarche, quand il est dit que l'éveillé par le passé ne s'est jamais éteint, et dans le futur, il n'apparaîtra point, ça fait référence au corps du Bouddha, qui ne s'éteint pas bien qu'il montre l'extinction, et n'apparaît pas bien qu'il montre la naissance. Quant à la phrase « ceux à qui il a prêché sont de même substance », ça signifie que, à l'époque de la cérémonie dans les airs, les êtres qui étaient présents, de par la croyance, manifestèrent un corps unique, inséparable du corps du Bouddha, Shakyamuni, présent et permanent à l'origine. Et en même temps qu'il y a la présence des neuf états au sein du Bouddha, mais que par la croyance, le monde du Bouddha apparaît dans les neuf mondes, dans le monde des êtres, en même temps qu'il y a ça, le fait de croire permet aux êtres de faire fusionner le monde du Bouddha dans leur état, dans leurs neuf mondes. C'est le fait de croire qui permet cette fusion. Le Bouddha apparaît là où il n'était pas, au sein des neuf états. Donc tous les disciples obtinrent, ils interrompirent à ce moment-là l'obscurité fondamentale et parvinrent au degré de non-régression, c'est-à-dire que plus jamais ils resteraient dans les six voies, ou au degré de l'éveil égal. Mais c'est une vision encore superficielle. Le grand patriarche dit que plus profondément, les êtres qui eurent foi à ce moment-là comprirent au niveau du temps que leur vie était elle-même présente depuis le passé lointain et étendue comme celui de Shakyamuni, comme celle de Shakyamuni, et au niveau de l'espace, ils réalisèrent l'identité de leur corps omniprésent dans le monde du temps et de l'espace et du monde des phénomènes. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé que leur vie non seulement était permanente sans origine, mais que leur vie était l'intégralité phénoménale. Donc ça, c'est ce à quoi on peut s'éveiller, nous, en pratiquant matin et soir. C'est là que notre terre devient pure et paisible. Notre vie devient pure et paisible. À propos du fait de s'éveiller à cette réalité que la vie est, depuis le passé infiniment lointain, permanente, il est dit Nishijun Shonin dit dans notre école, donc, la loi est EST la personne est EST la loi. Sous-entendu, dans notre école, on considère que une loi qui est antérieure au Bouddha est une loi médiocre, une loi inférieure. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de loi avant les phénomènes, il n'y a pas de phénomène avant la loi. La loi est EST les phénomènes sont la loi. C'est pour ça que pour nous, il n'y a pas une distinction entre les phénomènes et la loi. Donc le Bouddha, qui est l'éveil, montre la loi, donc montre l'éveil en tant que existant. S'il n'y a pas de loi et après des phénomènes, ou des phénomènes et après la loi, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que notre présence est permanente, de fait. Il n'y a pas quelque chose avant notre présence. C'est pour ça que dans notre école, on dit que la loi est OST la personne. Il en va de même pour nous. Nichiren dit, dans le grand patriarche dit, dans le fait que notre substance soit telle quelle la substance de la loi merveilleuse, réside l'unicité de la personne et de la loi. Jamais, 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 nous n'avons été postérieurs au monde. C'est une seule et même chose, qui n'a pas d'origine. Notre présence est permanente. Nous ne sommes pas apparus à un moment après l'existence du réel. Nous sommes le réel immédiatement. Ça, le Bouddha le voit. C'est qu'il y a une grande différence entre Shakyamuni qui va dire Ainsi, j'ai atteint l'éveil dans un passé infini. Et Nichiren qui ne traitera pas du tout de son passé, et qui expliquera directement qu'il est l'infinité des phénomènes, tout de suite, maintenant, et il l'a toujours été. Shakyamuni utilisera le passé pour faire comprendre la grandeur de son éveil, Nichiren pas. Il indiquera tout de suite que tout est ultime, et qu'il est, que son propre corps est l'infinité phénoménale, et qu'il n'y a ni départ, ni fin. Ça, c'est ce que le Bouddha original va enseigner. C'est ce qui est expliqué un peu plus tard. On n'y arrivera pas aujourd'hui même. On n'aura pas le temps. Et concernant, là, on parlait de la loi antérieure au phénomène qui serait une hérésie, ou la loi antérieure au Bouddha qui serait également une hérésie, et quant à l'espace, on a dit tout à l'heure qu'ils sont éveillés à l'identité de leur corps avec l'infinité du monde des dharmas, et bien on trouve la même chose encore dans le numéro 93. Le grand patriarche dit que les êtres, grâce au Bouddha, peuvent s'éveiller à l'éternité de leur personnalité, c'est-à-dire que la personnalité, ce qui nous caractérise en tant qu'individu singulier par rapport aux autres, ce qu'on appelle l'ipséité ou l'ipséité, cette personnalité ne peut ni apparaître ni disparaître. Cette personnalité n'est jamais faite par les événements. Elle n'est jamais faite à cause de ceci ou à cause de cela. Elle est permanente. Et concernant l'espace, il est dit, il est clair que les végétaux et le territoire, donc tout, sont présents dans la substance intérieure du Bouddha, et que l'intégralité du monde des phénomènes de l'univers est le corps des œuvres et vertus du Bouddha. Ça veut dire que l'intégralité phénoménale, pour ce qui nous concerne nous, est nécessairement l'expression des œuvres et des vertus de notre propre vie. Jamais on est dans un monde méchant ou dans un monde gentil. L'intégralité phénoménale, comme notre personnalité, ça montre simplement aux yeux du Bouddha les vertus qui ont fleuri de par notre croyance et la pratique de la loi. Autrement dit, non pas que les choses se produisent en termes d'accumulation des œuvres et des vertus, pour qu'on peut dire si l'on veut, mais c'est pas une bonne manière pour comprendre, non pas que les choses s'accumulent, mais à chaque instant, enfin, Nichiren dit ça, il dit, un homme tombant à terre ne peut se relever en s'appuyant sur la terre. D'accord? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut qu'émerger de là où on s'est arrêté. On prend appui sur le point d'arrêt, qui est le dernier point de la localisation, on prend appui pour jaillir. Mais de la même manière, notre vie à chaque instant, elle surgit de ce qui la constitue en tant que œuvre de vertu, et ces œuvres de vertu, c'est l'infinité phénoménale ainsi que notre corps. Ça, c'est à l'origine. En permanence. Ou si vous préférez, hors le temps, hors l'espace, ce sera plus simple. C'est comme ça. C'est le 93, page 14, c'est écrit. Je sais bien que c'est plus compliqué que les logiques linéaires et spatiales. Si on a du mal, on dérape un peu, mais on est plus près. Et on pensera moins de conneries si on arrive à garder ça en tête, à mon avis. Donc, lorsque Shakyamuni dit en réalité, j'ai atteint l'éveil dans un passé infiniment lointain et non pas en Inde avec vous autrefois à Gaïa. Donc, au moment où Shakyamuni révèle l'originel, son origine à lui, et quand il dit, en réalité, j'ai atteint l'éveil il y a un temps infini, atteindre l'éveil, c'est un effet, c'est pas une cause. D'accord, atteindre l'éveil, c'est parce qu'il y a eu des actes. L'éveil, c'est l'aboutissement, c'est l'effet. Donc, le grand voyage dit, au fond, la révélation de l'originel par Shakyamuni, autrement dit, la révélation de l'effet du Bouddha qu'il a obtenu dans le passé lointain, au fond de ça, on trouve l'obtention de la voie par le Bouddha originel, qui est l'homme ordinaire au degré de l'identité de dénomination, égale à l'ultime, cause originelle du passé infini. Autrement dit, Nichiren Namiro Rengekyo est la cause originelle du passé infini, c'est-à-dire que le temps et l'espace sont issus de l'éveil, donc de Myoho Rengekyo, et quand ils disent homme ordinaire, identique à l'ultime, au degré de dénomination, ça signifie que seul le fait de réciter, de nommer Myoho Rengekyo est la cause originelle du passé infini. Mais si vous préférez, Myoho Rengekyo en tant que état est à la fois cause-effet simultané, c'est un dharma, comme nous le sommes tous. Nous, on voit que l'effet, mais c'est comme ça. Hein. Eh bien, ce dharma, Myoho Rengekyo, est l'éveil, il est au degré de dénomination, c'est-à-dire que l'homme ordinaire peut le prononcer sans avoir à faire un effort particulier, c'est pas difficile. Le prononçant, grâce à la foi, qui est la cause, il devient identique à l'ultime, c'est-à-dire au Bouddha originel. Donc il n'y a plus de distinction entre le profane et le saint dans le fait de ne pas rejeter et prononcer. C'est l'apparition immédiate de l'effet de l'éveil. Et le grand patriarche disait ainsi, Nichiren disait, au fond de l'enfer, ou étant dans l'enfer, la souffrance, l'habilité, ce que vous voulez, donc c'est comme ça, c'est votre vie, c'est ça apparaît, point, c'est... On remplit, on va se dire, bah, j'arrête de flipper, je reprendrai ça demain. T'es dedans, tu flippes pas. Donc, t'es dedans. Eh bien, au sein de cela qui est ta vie, qui apparaît, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, tu peux tout extraire. Au sein de ça, bien, le fait de réciter Daimoku, c'est montrer l'effet de l'éveil, alors que les conditions ne le donnent pas. Alors que rien n'y concourt. Si ce n'est le fait de croire, c'est la seule opportunité de penser des conneries qui reviennent tout le temps, les mêmes en plus, la seule opportunité, c'est de ne pas rejeter et de réciter. C'est l'effet de l'éveil immédiat, dans le corps, tout de suite. C'est comme ça. Et on terminera en disant que, en fait, le Bouddha... Ah oui, j'avais ça quand même, c'était intéressant. Ziyi dit que, lorsque... Enfin, il parle de lui, là, hein, bien sûr. Il dit... Lorsque la sagesse fusionne avec l'objet, c'est l'infinité phénoménale, bien sûr, la substance des phénomènes, il dit, lorsque la sagesse s'harmonise avec l'objet, la cause et l'effet naissent. C'est qu'avant, il n'y a pas. Ce n'est que lorsque la sagesse fusionne avec l'objet, que la cause et l'effet existent. En tant que Myoho Rengekyo. Ça, Ziyi l'a vu. Donc il l'a récité sans pouvoir le transmettre. Mais en dehors de ça, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler cause-effet. Le monde n'est que effet. Ce n'est que grâce à la vertu et à la bienveillance du Bouddha originel que l'on peut entrer dans le monde de la cause merveilleuse par le fait de la croyance. Notre capacité se limite à cela. Plus graduellement, bien sûr, la sagesse peut apparaître. On comprend mieux, on voit mieux. Des objets qu'on a gardés un certain temps et qui étaient opaques, on ne comprenait pas, même si on réfléchissait, on ne voyait rien. Ces objets ouvrent en eux leur qualité. Les qualités se répandent, en pratique. Voilà, on continuera le prochain coup, non ? La compréhension, finit. Ça sert à rien. Puis en plus, on est tellement con, je l'assure, que la compréhension, c'est pas la peine de se braquer là-dessus. Hein. Là, il est dit, Nichiren dit, entendant la présence permanente de la cause originelle du Bouddha, les êtres s'éveillèrent au fait qu'eux-mêmes, possédant la même causalité que le Bouddha, étaient présents en permanence. C'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on peut faire, à défaut d'un plus loin, on peut. Là, évidemment, dès qu'on commence à ressentir ça en pratiquant, la vie change. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Il y a la sérénité qui emplit le corps. Voilà, je vous aime tous. À la prochaine. Ça fait presque une heure et demie, enfin, il est costaud, hein. Donc on continuera. Si vous pouvez le lire par vous-même, vous verrez, il y a des choses qui sont merveilleuses. Ah, si jamais c'est un truc qui est marrant tout le temps. Si, monsieur. Là, c'est quand même trop marrant. Ça va faire rire. Donc, il a traité du concept de kouon, hein, long et étendu, et dans le temps, dans l'espace, kouon. Mais dans la doctrine, le concept réel, c'est kouon ganjo. Donc, on avait oublié de traiter de ganjo. J'aime bien le partage parce que il a une finesse invraisemblable et il sait ce qu'il fait. Il est quand même terrible. Bon. Donc il dit, la source même du bouddhisme, c'est dans l'expression Kuang Ganjo qui signifie le début de l'origine lointaine et étendue. Donc on avait Kuang long et étendu, on rajoute le début de cette origine longue et étendue. Alors attention, il y aurait un début au temps infini. Hein? Au tout début, il avait dit, je l'avais cité, je ne pense pas toutefois que l'on puisse ponctuer le début du temps. En parlant de Big Bang, il avait dit, il n'y a pas d'origine au temps, donc on ne peut pas le ponctuer. Sur la fin, il dit, Kuan Ganjo, c'est le début de l'origine lointaine et étendue. Donc, il dit, ça laisse supposer l'existence d'un commencement, le début de l'origine lointaine. Il dit, or, en fait, le début de l'origine lointaine et étendue contient la substance de la loi sans commencement ni fin. Dès lors, dit-il, lorsque la une pensée s'ouvre à la véritable substance Nam-myoho-renge-kyo, celle-ci traverse alors le passé et le futur sans commencement ni fin. Autrement dit, le début de l'origine lointaine et étendue, c'est plus quelque chose qui relève du temps et de l'espace, mais de la qualité. C'est-à-dire de l'éveil. On quitte le temps et l'espace, et l'origine du temps étendu et lointain est une qualité. Pourquoi? Parce que le temps et l'espace sont des qualités. Donc le début de l'origine lointaine et étendue, c'est l'éveil. Et la durée de vie dans les six voies des êtres qui naissent et meurent tout le temps, dans des conditions données, avec un espace donné, une vision des choses données, c'est également leur qualité d'état en tant que état. Tout provient de la qualité tout le temps. Tout provient de l'état. C'est mignon, non, de renverser le temps et l'espace pour dire que la source est la qualité. Comme pour nous qui pratiquons. Voilà. Eh bien, je vous embrasse encore et ciao. C'était cool, non? Mais si vous avez l'opportunité, relisez-le, hein, parce qu'on a encore des choses à dire. Non. Voilà, on s'est arrêté au même endroit que l'autre, que les gens sont ici. Donc c'est bien, comme ça je ferai la suite la prochaine fois. Si vous avez des questions, posez des questions, mais pensez bien qu'il n'est pas sûr que je puisse y répondre d'une manière satisfaisante. Ce serait m'accorder trop de pouvoir. Hein. En plus, sincèrement, je vais vous dire un truc, hein, quand je fais un cours, j'ai honte. Je lis le discours du grand patriarche, je fais un commentaire. On dit de moi que j'interprète. Un interprète, c'est quelqu'un qui rend clair ce qui est difficile à comprendre. Donc forcément, qu'on interprète, c'est normal. Ça veut pas dire que j'interprète mal, je peux interpréter d'une manière superficielle, de toute évidence, moins profonde que le grand patriarche. Mais c'est vrai que, quand je donne un cours, quand je vois l'élévation du grand patriarche, c'est vrai que quelque part, vous voudrez que je ferme ma gueule, que je ne fasse pas ça. Mais je l'ai fait quand même, parce que malgré tout, si je peux permettre à des gens de comprendre un peu mieux ce qu'il dit, sinon personne ne le lit, donc ce serait dommage. Vous comprenez bien que moi, j'essaie juste d'être intermédiaire là-dedans. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas.